BPM. Élections législatives 2022.
Bienvenue sur BPM si vous venez de nous rejoindre. Les élections législatives auront lieu le 12 et 19 juin prochains. À cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales. Les candidats pour la 8e circonscription viennent répondre à nos questions. Nous accueillons ce matin Edwige Hervieux, candidate de la majorité présidentielle Ensemble. Edwige Hervieux, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez 41 ans, vous êtes première adjointe au maire en charge des affaires générales et de l'administration de Mantes-la-Jolie, conseillère communautaire à la GPSO. Vous êtes candidate avec comme suppléant Sébastien Duprat, conseiller municipal d'opposition à Limay. Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter ?
Eh bien écoutez, j'ai décidé de me présenter, c'est vraiment la continuité de mon engagement local. Il faut savoir, moi, je suis encartée en fait à La République En Marche, donc maintenant Renaissance depuis 2017. Je suis ravie qu'il m'ait investi. J'ai postulé en fait début janvier. Ils m'ont donné beaucoup de force. Le fait que l'investiture soit tombée pendant
L'élection municipale.
Pendant l'élection municipale, tout à fait. C'est un signe très fort de la part en fait de Renaissance et je ne peux que les remercier de leur confiance et de leur soutien.
Vous aimez les élections ? Parce que là, vous sortez du municipal et hop, on se replonge dans les législatives.
Exactement. Une élection, c'est aussi, être naturel. Hein, quand on fait les choses calmement et proprement. Tout se passe correctement.
Alors, que pensez-vous de l'élection d'Emmanuel Macron ? On rappelle les scores, 58-55 pour Emmanuel Macron, 41-45 pour Marine Le Pen. Qu'est-ce que ça vous dit, ces chiffres ?
Que la France est divisée, que nos habitants sont divisés, nos concitoyens sont divisés, et qu'en fait, aujourd'hui, il faut chercher à rassembler. Je pense que les 5 années n'ont pas été faciles. Ces 5 années de mandat qui sont quand même très compliquées, il y a eu beaucoup de crises. La crise des gilets jaunes dans un premier temps, ensuite la Covid et puis là effectivement la guerre en Ukraine, c'est quand même pas un mandat sur lequel tout s'est passé facilement. Moi je trouve qu'Emmanuel Macron a quand même fait preuve de beaucoup de courage parce qu'il fallait affronter en fait tout ça, il fallait trouver les solutions en face et aujourd'hui sincèrement je pense que peu d'hommes auraient pu faire la même chose.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Que pourriez-vous faire en tant que député pour améliorer le pouvoir d'achat des habitants du Mantois ? Une inflation de 5,2% en un an, de mai à mai. Mais pas les salaires.
Oui. Alors, on ne peut pas agir sur les salaires. Par contre, en fait, on peut agir effectivement, et comme on a commencé, en fait, comme l'ont fait aujourd'hui les députés, donc en l'occurrence le bouclier, notamment sur tout ce qui est énergie. Donc ça, on va continuer à le faire, effectivement, si nous sommes réélus. C'est quelque chose que je voterai dès cet été.
Rappelons ce qu'est le bouclier d'énergie, parce que moi, ma facture de gaz, elle a augmenté. Hein. Et l'EDF aussi. Hein.
Oui, bah alors...
un chouïa. Hein.
Voilà, non mais, effectivement, c'est bien de le rappeler, mais pour le coup, il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, du coup, derrière une prime Macron qui peut être effectivement donnée, en fait, à certains salariés, qui est quand même, en fait, aujourd'hui... sans charge ni impôt, et puis pour nos retraités, voilà, par exemple à Mantes-la-Jolie, on a quand même beaucoup de retraités en fait en difficulté, il y aura une indexation en fait des retraites sur l'inflation, et ça c'est quelque chose de très important.
Alors deuxième sujet, puisque vous parlez des retraités, est-ce que vous allez voter pour le passage à la retraite à 65 ans ?
Alors le passage à la retraite...
Si vous êtes élu.
Oui, bien sûr. Alors le passage à la retraite de 65 ans, déjà c'est une réforme qui contient plusieurs, thématiques. Bien entendu, il y a l'âge légal de départ à la retraite, mais tout ceci, en fait, va être mis en concertation, notamment avec les partenaires sociaux, qui doivent être vus, d'ailleurs, prochainement par le gouvernement. On va rentrer dans des négociations. Et c'est à la suite de ces négociations qu'on pourra dire ou pas l'âge de légal à la retraite, est-ce qu'il sera de 65 ans ou pas.
Mais vous avez votre petite idée, quand même, sur la question.
Oui. Oui. Alors oui, je le voterai. Pour la simple et bonne raison que il faut conserver, nos acquis sociaux. Aujourd'hui, la réforme des retraites, c'est pas une réforme en fait, injuste. C'est une réforme qui fait qu'on va pouvoir continuer en fait à la toucher, qu'on va pouvoir la toucher en fait à taux plein. Aujourd'hui, il n'est pas normal que certaines personnes aient travaillé toute leur vie puissent toucher en fait par exemple 750 euros de retraite. Ce que propose aussi la réforme des retraites, c'est de pouvoir justement sur cette partie qui n'aurait pas en fait de retraite en fait un minimum décente de pouvoir en fait l'avoir à 1100 euros. Mais il n'y a pas que ça bien entendu. Hein. La réforme de retraite est beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées, le handicap par exemple, les carrières longues. Bien entendu aussi la pénibilité du travail. Donc tout ça, en fait, fera partie de la réforme des retraites. L'âge de départ, aujourd'hui, si on veut une retraite pleine, elle est estimée, entre, on va dire, à 63 ans. Donc voilà, et puis on ne vit pas comme on vivait, en fait, il y a 30 ans ou 40 ans en arrière.
On gagne moins d'argent ?
Alors, gagner moins d'argent, peut-être pas non plus. Mais en tout cas, on n'évolue pas de la même manière, on n'a pas le même niveau de vie que nos parents ou nos grands-parents. Et ça, c'est une chose importante. On vit de plus en plus vieux. On vit de plus en plus vieux. Et il faut pouvoir continuer, si on souhaite conserver, voilà, ce que je dis, hein, nos acquis sociaux, il faut pouvoir parfois aussi évoluer, même si, je veux dire, ça amuse personne de devoir travailler jusqu'à 65 ans. Moi, la première, puisque je travaille, hein, je ne vis pas de la politique. Voilà, je sais que c'est une... voilà, je vote aussi, quelque part, mon départ à la retraite.
Alors, on va revenir dans le Mantois avec une question d'actualité locale. Il y a un projet de maison d'arrêt à Magnanville, oui, lancé par Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice d'Emmanuel Macron. Êtes-vous pour ou contre la construction de cette prison dans la commune ?
Alors, je dirais que je me positionnerais plutôt contre. Alors, j'explique un peu. De toute manière, on ne pourra rien. L'État est souverain sur ce type de décision, d'accord, qu'il prenne. Aujourd'hui, on a besoin de prisons en France. C'est une chose importante. Il faut pouvoir les créer. Alors, je sais bien que c'est embêtant pour les habitants de Magnanville. Néanmoins, cette prison se fera. Alors, cette maison d'arrêt, pour être plus précise, elle se fera avec contestation, pardon, ou pas, elle se fera. Ce qu'il faut peut-être, et d'ailleurs, en l'occurrence, il y a quand même des négociations qui sont en cours. Il y a déjà, en fait, des prises de contact. Il y a un comité de pilotage qui a été monté entre le préfet, le maire de la ville, le comité d'ailleurs. Il y a eu des propositions, de fait. Ils ont fait deux propositions, en l'occurrence, de terrain sur lesquels ils préféraient, voir la maison d'arrêt se créer.
Mais c'est où ?
Alors, je ne les connais pas.
D'accord.
Je ne les connais pas.
Mais c'est
je
sur la commune de Magnanville ou pas ?
Alors, pas forcément.
D'accord.
Pas forcément. En tout cas, c'est ce qu'on va remonter, mais je pourrais pas vous dire lesquels. Par contre, ce que je sais, c'est que le dossier est en cours. Les décisions ne sont pas encore prises de manière définitive. Voilà, je pense que d'être dans le, comment on peut dire, dans l'opposition à la construction de cette maison d'arrêt, ce n'est pas bon. Voilà, je pense qu'il faut surtout rentrer, en fait, dans une négociation, en tout cas pour parler avec le gouvernement. Et aujourd'hui, je suis la mieux passée pour le faire.
C'est vrai que si devant chez moi, il y avait une prison qui se construisait, je ne serais pas forcément pour.
Bien sûr, mais en fait, comme tout le monde, mais j'ai envie de vous dire, c'est comme tout le monde en fait, veut plus d'écologie, mais personne ne veut d'éoliennes. Enfin, voilà, les sujets sont nombreux comme ça.
Allez, on va revenir sur votre programme et notamment sur le logement. Vous souhaitez engager un plan de rénovation pour lutter contre les logements insalubres et dégradés. Alors, dans le Mantois, c'est un sujet récurrent, ce sujet-là, le logement.
Alors, le logement, c'est un sujet récurrent. Dégradé, c'en est une autre.
Réhabilité. Le Val-Forêt, ça fait plus de 30 ans que ça...
Oui, oui, effectivement. Alors, il faut savoir quand même que... alors, il y a plusieurs parties prenantes sur notamment la rénovation du Val-Forêt. Il va y avoir, bien entendu, l'ANRU, il va y avoir le département, il va y avoir la région. Enfin, tout le monde met à la poche pour pouvoir, en fait, obtenir, j'allais dire, la rénovation de ces logements. Il faut que tout le monde se mette d'accord, en fait, sur le schéma, ce qu'on va en faire, en fait. Et parfois, pour des détails, on va vous redemander de recommencer le dossier. Voilà, donc je crois que c'est un dossier qui a été bloqué pendant plus de 14 ans. C'est Raphaël Cognier qui a réussi à...
L'ANRU 2.
Voilà, tout
ouais,
à fait.
L'ANRU 2.
Qui a réussi, en fait, à débloquer le dossier. Donc, on ne peut que s'en réjouir. Voilà, les choses commencent et c'est une très bonne chose.
Alors, vous voulez diminuer la facture énergétique pour des logements, les entreprises et les établissements publics. Alors, comment on fait ? Moi, je suis preneur.
Oui. Eh bien, en fait, il faut surtout développer, en fait, aujourd'hui, les énergies qui coûtent moins cher. Donc, en l'occurrence, les panneaux solaires, par exemple. Si aujourd'hui, on en met sur... Je vous donne un exemple qui est déjà voté. Donc, comme ça, je peux vous le dire.
D'accord.
Sur la ville de Mantes-la-Jolie, en l'occurrence, sur le toit de l'Agora, vous allez avoir des panneaux solaires. Ça, en fait, c'est des énergies aujourd'hui... qui seront beaucoup moins chères en fait aujourd'hui que celle du pétrole ou que d'autres ou que l'électricité, quoi que l'électricité c'est pas forcément non plus
mais ça peut augmenter aussi hein.
Ça peut augmenter aussi mais en l'occurrence effectivement il faut qu'on soit en tout cas maître de cette énergie pour que ça revienne moins cher.
Et pour les logements pareil, vous allez inciter les gens à mettre des panneaux solaires?
Non, alors pas forcément, mais par exemple, si je vous donne en l'occurrence des choses qui sont déjà faites à Mantes hein, et qui sont à reproduire ailleurs, hein, pas oublier non plus qu'on parle aussi du national, mais voilà, à Mantes, vous avez une chaufferie en fait biomasse, et ça en fait aujourd'hui, c'est une chance pour les habitants, notamment du Val-Fouré, d'avoir une chaufferie biomasse, puisque celle-ci en fait coûte, si vous voulez, beaucoup moins cher en énergie qu'une autre en fait centrale. Donc c'est toutes ces choses-là en fait qu'il faut mettre en place. Il y a des moyens en fait de se chauffer par exemple mieux et moins cher. L'électricité pour le coup en chauffage, ça peut coûter cher si on est mal isolé. Il y a toutes ces solutions en fait qu'il faut mettre en place.
Vous allez continuer les pompes à chaleur à donner à donner des subventions ou...
Non. Pas forcément, voilà.
D'accord. Allez, on va passer à l'enfance maintenant. Vous indiquez dans votre programme que vous souhaitez assurer la réussite de chaque enfant. C'est un peu un souhait de chaque parent, mais on n'y arrive pas forcément. Comment vous y allez y arriver, vous ?
Alors, c'est surtout en laissant aussi, et c'est quelque chose en fait qui, pour le coup, je trouve est une bonne chose de la part du gouvernement. On entend beaucoup aujourd'hui de professeurs des écoles, notamment, qui n'ont pas toute la liberté sur l'apprentissage, j'allais dire, et la manière en fait dont ils peuvent apprendre aux enfants, c'est surtout leur laisser plus de liberté. Ça, c'est une chose en fait importante. Vous avez, je donne des exemples, alors c'est pas forcément de ces exemples-là dont le gouvernement s'empare, mais ça peut être des solutions. Aujourd'hui, vous avez des écoles Montessori qui reprennent en fait des enfants qui sont en extrême difficulté. Et ces enfants, en fait, ont besoin d'une attention particulière. Et ça fonctionne très bien à partir du moment où vraiment on adapte l'enseignement en fait à chaque enfant. Aujourd'hui, il y a une chose qui a été très bien réussie dans ce quinquennat. En l'occurrence, c'est le dédoublement en fait des classes de CP et de CE1. Ça fonctionne très bien. On se retrouve en fait avec des élèves par îlot de 12 enfants. Qui sont, j'allais dire, dont les professeurs, en tout cas des écoles, peuvent beaucoup plus être attentifs, un, aux demandes de l'enfant, mais et aussi à ses difficultés ou à ses réussites. Parce que c'est important aussi, quand on dit la réussite de chaque enfant, y compris en fait de ceux qui ont des facilités. Donc ça, c'est vraiment important en fait aujourd'hui qu'on continue en fait à développer ces classes, et c'est d'ailleurs en l'occurrence ce qui est prévu d'être fait, de développer en fait ces classes de dédoublement, j'allais dire, aux plus petits.
Alors, on va passer à la jeunesse et à l'emploi. Comment résoudre le problème de l'emploi des jeunes ? Alors, le Montois, on est bien placé pour le savoir.
Ouais.
Il y a quand même beaucoup de structures qui existent. Qu'est-ce qu'on peut créer ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, il y a des choses... Alors, on va refaire un petit tour sur le bilan aussi. Il y a des choses qui ont bien fonctionné. Alors, on va pas forcément parler d'emploi, mais on va parler aussi d'accompagnement. Il y a eu une solution qui a été mise en place et qui a très bien fonctionné. C'est-à-dire que voilà, hein, des enfants qui avaient des stages, franchement, honnêtement, j'ai eu très peu de retours, de parents dont les enfants en fait n'ont pas eu de stage par rapport en fait à cette solution en fait un jeune une solution qui a été portée entre autres par la mission locale. Donc, il faut continuer, en fait, tous ces axes liés, j'allais dire, à l'accompagnement. Et il faut surtout former nos jeunes. Si on prend le cas, en fait, de Mantes-la-Jolie, mais pas forcément, hein, ça peut être aussi de Mantes-la-Ville, de Limay, enfin, voilà. Hein, il faut multiplier les apprentissages quand les jeunes n'ont pas forcément de formation. Voilà. Donc, et il est prévu, d'ailleurs, de les multiplier par deux. Et surtout sur les métiers pour lesquels on est en tension. Exactement. Donc on peut le citer. Hein. Vous allez avoir les BTP, la restauration, le numérique, voilà, par exemple. Et ça fait partie notamment d'un projet que nous avons avec Raphaël sur la grande école du numérique. Aujourd'hui, il ne faut pas forcément de diplôme pour être motivé. Et puis, voilà, simplement le fait d'apprendre, d'être accompagné. On parle toujours d'accompagnement, mais c'est important. Ça fonctionne.
Alors, vous parlez d'apprentissage, justement. On va parler un petit peu d'économie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour dynamiser le commerce mantais, par exemple ? Vous êtes élu de Mantes.
Oui. Alors, il y a des choses qui sont déjà en cours, en l'occurrence. Le programme Action Cœur de Ville, qui a été, ça fait déjà, je crois, un peu plus de 2-3 ans que Mantes-la-Jolie a eu cette labellisation, en tout cas, qui a été actée. Action Cœur de Ville, c'est vraiment quelque chose qui vise, alors, sur plein de schémas, à faciliter, alors notamment les élus, mais aussi les services de la ville, à pouvoir réfléchir un centre-ville différent, ça peut toucher au stationnement, ça peut toucher au commerce en lui-même, ça peut toucher aussi à la circulation. Donc, il y a vraiment tout un schéma, en fait, au sein de d'Action Cœur de Ville, notamment, en fait, aussi avec la Banque des Territoires, qui aide beaucoup. Donc, il y a des subventions, il y a ce genre de choses qui sont mises en place. Et ça, il faut le continuer, en fait, à le travailler. Il y a des villes qui... alors, le commerce en centre-ville est très difficile, notamment sur les villes moyennes. Bien souvent, il y a aussi le fait que beaucoup de grands centres commerciaux sont autour de ces villes. Ça n'aide pas, très clairement. Donc, ça, il faut
vraiment
éviter.
Donc, Montbobuchet, ça n'aide pas le commerce
Non, ça n'aide pas le commerce. Non, ça n'aide pas le commerce. Mais bon, Montbobuchet, je ne suis pas sûre que ce soit franchement lui qui aujourd'hui donne aussi la difficulté que l'on peut avoir à Mantes. À Mantes, c'est vraiment aussi une problématique liée à la taille des cellules. D'accord.
Donc, à la taille des commerces.
Voilà. À la taille des commerces. Et puis aussi, j'allais dire, au loyer de certains commerces. Voilà. Donc,
ça, vous ne pouvez pas grand-chose.
On n'y peut pas grand-chose.
C'est les propriétaires.
Mais on pourrait effectivement mettre en place des j'allais dire, une sorte de, peut-être, chapeau, voilà, qui en tout cas maîtrise un certain, enfin, les loyers ou une cellule, au bout d'un moment, enfin, taxer peut-être aussi. Via des impôts, les cellules qui resteraient vides trop longtemps.
Alors, en matière de sécurité, vous voulez augmenter les forces de l'ordre sur le territoire. Alors, combien de policiers et de gendarmes en plus dans le Mantois, du coup?
Alors, je n'ai pas de chiffres, en fait, à donner. Aujourd'hui, ça, c'est une proposition, en fait, du programme Emmanuel Macron, qui prévoit, en fait, 200 brigades en plus, effectivement, sur la France entière. Aujourd'hui, on pourrait très bien avoir des brigades mobiles de gendarmerie en plus, notamment dans le Vexin, parce que effectivement, il y a un sentiment, je dis bien un sentiment, en fait, d'insécurité qui peut être généré par les villes moyennes, en fait, comme Mantes-la-Jolie, comme Limay ou Mantes-la-Ville, sur ces petites villes, en fait, rurales et villages. Et aujourd'hui, il y a une chose qui rassure, effectivement, c'est le fait d'avoir des forces de l'ordre, en fait, près de chez soi, pour pouvoir intervenir. Il y a aussi, et on le verra, je pense, d'ici ce quinquennat, le fait que la gendarmerie de Mantes-la-Jolie, effectivement, va déménager, puisqu'elle va venir...
À côté d'Intermarché.
Exactement. Donc, ils seront déjà, j'allais dire, mieux logés, parce qu'il faut vouloir, en fait, venir aussi sur Mantes-la-Jolie. Les logements dans lesquels ils étaient, c'était vraiment, effectivement, très ancien. On va pas dire insalubre, mais effectivement, c'était très vieillissant. Voilà, ils seront déjà aussi mieux lotis, et qui dit mieux lotis dit qu'on attire du monde.
Il nous reste 2 minutes 30 avant la fin de cette émission. On va aborder maintenant le thème de la santé. Vous comptez donner plus de moyens pour les soignants à l'hôpital. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Le Covid, les soignants sont fatigués.
Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui manque? Il manque, en fait, aujourd'hui du personnel. Et c'est une bonne question que vous me posez, parce que j'ai été donc la semaine dernière à l'hôpital de Mantes-la-Jolie avec Raphaël Cognier. J'ai participé, en fait, au pot de départ de la directrice de l'hôpital. Et c'était très intéressant de pouvoir échanger avec les docteurs et les cadres de l'hôpital de Mantes-la-Jolie, parce que ce qui revient, en fait, c'est la difficulté, et c'est un peu ce qu'on a sur le territoire de manière générale avec la médecine générale. C'est la difficulté à conserver, en fait, les docteurs qui pourraient venir, en fait, travailler.
Les internes.
Ici. Les internes, entre autres. Et bien souvent, ce qu'on nous dit, c'est voilà, ce sont des gens qui habitent sur Paris ou ailleurs. Ils doivent venir, en fait, à Mantes-la-Jolie. Ils payent aujourd'hui un loyer sur Paris. Ils vont devoir payer, un second loyer sur Mantes-la-Jolie. Donc, en fait, les questions qu'ils nous posaient, c'était qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en fait, en tant qu'élus, pour pouvoir, en fait, garder, en fait, ces internes sur le long terme. Comment on peut faire, en fait, déjà pour qu'ils viennent et pour qu'ils y restent. Donc ça a été un sujet soulevé. Et puis, il y a aussi le fait que, bien souvent, quand ils viennent, justement, d'une ville comme Paris, comment, en fait, une ville de Mantes-la-Jolie pourrait les accueillir, pourrait faire en sorte qu'ils trouvent des repères dans une ville où ils ne connaissent pas forcément grand monde. Voilà, c'est beaucoup de questions comme ça qui ont été posées. Et vraiment, il y a de quoi faire, et c'était très intéressant.
Allez, en une minute, la dernière question. Vous voulez également capitaliser sur la scène au point de vue touristique et sur l'identité du Mantois avec ça. Qu'est-ce qu'on peut proposer de nouveau? Il y a déjà des bateaux qui arrivent ici, qui partent à Vernon ou inversement?
Oui, alors il y en a un petit peu moins depuis le Covid. C'est un peu le côté, j'allais dire que ça a ralenti en tout cas ce que Raphaël Cognier avait initié. Et c'était quelque chose en fait d'extrêmement intéressant parce que faire venir en fait le tourisme à Mantes-la-Jolie, on a quand même en fait une ville aujourd'hui médiévale, un centre médiéval qui est absolument superbe, la collégiale qui est absolument magnifique. Enfin, on a beaucoup de choses en fait à faire visiter à Mantes. Et on avait effectivement dans l'esprit, et ça reviendrait un peu aussi à la question sur le commerce, on avait effectivement à l'esprit de pouvoir faire en fait un parcours dans la ville de Mantes-la-Jolie. Voilà, et en plus ça pourrait créer de l'emploi parce qu'on a besoin en fait aujourd'hui d'accompagnateurs voilà touristiques qui puissent en fait montrer toutes les belles choses que l'on peut avoir en fait à 60 km de la capitale si on prend par exemple le Vexin où c'est totalement vert et absolument superbe.
Merci Edwige Hervieux d'avoir accepté notre invitation.
Je vous remercie.
Cette interview sera rediffusée aujourd'hui à midi et à 18h. Et vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique podcast, puis élections législatives. À 8h30, c'est Michel Vialet, candidat du Parti Les Républicains, qui sera notre invité. Excellente journée à l'écoute de BPM.
BPM, élections législatives 2022.